Ce jour est dédié pour Yaakov El Mazal, pour qu'il ait rapidement beaucoup, beaucoup d'enfants. Amen.
Amen.
On a parlé ces derniers jours, un peu, quelques histoires concernant ce grand, grand tzaddik pendant la Shoah, l'admor de Cloisenburg, Rabbi Yekutel Yehuda Halberstam, c'est son nom, d'accord, le admor de Zanz-Cloisenburg. Voilà, j'ai tout dit maintenant, ça fait un peu long, mais on va dire l'admor de Cloisenburg. Histoire qui est très, très connue. À l'époque, j'avais lu dans un livre sur la Shoah, non religieux, écrit par un juif, il s'appelait Kaufman, Daniel Kaufman, j'imagine que j'ai décidé, c'est vraiment les Bracha, qui a vécu la Shoah et qui raconte, terrible, d'accord. Et il a fait partie d'un épisode que je vais raconter maintenant, et lui, il a témoigné de cela. Bien sûr, dans le livre qui parle de la Cloisenburg, on en parle, cette histoire-là, et encore beaucoup d'autres livres. C'est une histoire, c'est clair que ça a eu lieu, bien que c'est un miracle extraordinaire. C'était en été 44. Il y avait environ 6000 juifs qui travaillaient dans les ruines du ghetto de Varsovie pour déblayer toutes les ruines, essayer de retrouver un peu des choses qui pourraient aider la machine de guerre allemande, que ce soit du fer, que ce soit de l'argent, que ce soit des bijoux, etc. Et au bout d'un moment, les Russes commencent à se rapprocher. Donc les Allemands décident de prendre tous ces bataillon de 6000 détenus juifs en haillons et les squelettes vivants et de les faire marcher 120 km à raison de 3 jours. Pour nous, ça devait être 35 km par jour pour être précis. Pour nous, c'est déjà pas mal, mais bon, quelqu'un qui sait bien marcher, c'est pas trop terrible. Mais il faut comprendre qu'eux étaient en situation de survivance, extrêmement maigre, soif, faim, très très faible. Et énormément sont décédés, sont morts, décédés, ont été tués durant cette... les nazis même suivaient en voiture, courir sans cesse, donner des coups de barre, de matraque, et même écraser avec les voitures ceux qui ne couraient pas assez vite. Terrible. Et le Rav, c'est un moment, par exemple, il a essayé, il y avait un peu d'eau de côté comme ça, et il avait très très soif, c'était en plein été, et ils ont commencé à partir Shabbat. Shabbat, qui était un Shabbat du 9 Av, mais repoussé au lendemain. Et le Rav, à un moment, il ne voulait pas porter, il avait sa couverture, alors un de ses proches a dit, je prends ta couverture. Mais c'est le Shabbat, mieux vaut qu'il y ait un, de toute façon, moi je prends la mienne, alors moi que je prenne deux, ça sera au moins un peu interdit, plutôt que deux. Et un des nazis a vu ça, il a pris, il a donné des coups, il a enfoncé son fusil comme ça dans les côtes. Pendant des années après, il avait encore une blessure ici aux côtes. Et il a hurlé qu'il fallait tuer, que c'était un saboteur, il a amené vers les officiers. Un officier a dit, laisse-le tranquille, il a donné un coup et il est reparti dans le... Après, il a vu sur le contre-chemin que ça avait un petit ruisseau comme ça, d'eau verte comme ça. Il s'est dit, je vais peut-être essayer d'en boire un peu. Il a descendu, on a tiré une balle. Et il s'est fait blesser au bras. Et vite remonter, parce que s'il voyait un blessé, il le tuait tout de suite. Il s'est mêlé à la foule comme ça. Et tout le monde souffrait énormément de l'astrocité terrible. Soif, en plein été, d'accord, un soleil. Et... Bon, la nuit, ils se reposent, le lendemain, ils partent. Ça, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av. Et tout le monde se plaint, et lui, à voix basse, il dit les quinotes. Il dit les lamentations de Tisha B'Av, Echa, etc. Et beaucoup, au bout d'un moment, ont laissé leurs sabots par terre, ont continué à marcher pieds nus, parce que c'était beaucoup plus facile de courir pieds nus qu'avec les sabots. Le Rav, dès le matin, il allait sans sabots, pourquoi? Parce que Tchabéav, d'accord, 9 Av, on va sans chaussures, donc il allait pieds nus déjà. Et bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, au bout de 3 nuits, il se repose à un endroit, et tout le monde est assoiffé, bon, la moitié déjà morte en route. Eux sont assoiffés. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'eau. On leur donne un peu d'eau puante comme ça le matin. C'est toute la journée, elle est comme ça. Tout à coup, comme ça dit le monsieur Daniel Kaufman dans son livre sur la Shoah, il dit, c'est extraordinaire comment les chassidim du Rav ont une foi en leur Rav. Qu'on voit qu'il y a une frénésie qui les a pris, et chacun prend, une fourchette, un couteau, un morceau de bois avec les doigts, ils commencent à creuser par terre. Ils étaient dans un champ, entourés de gardes nazis, d'accord, mais c'était 6000, donc, bon, ils commencent comme ça, enfin, c'est plus que 3000, d'accord, et ils creusent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, leur Rav leur a dit que le puits de Myriam est avec nous. Le puits de Myriam, durant les 40 ans dans le désert, il roulait avec le peuple d'Israël. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Bon, on avait un puits, et chaque fois qu'on arrivait à un endroit, le président de chaque tribu tirer un trait avec sa canne comme ça vers sa tribu, et hop, il y avait de l'eau qui rentrait, ça avait un ruisseau, et l'eau amenait de l'eau, le rocher amenait de l'eau dans leur tribu. La mort de Klausenburg leur dit, le puits de Miriam était avec nous, creusé. Tout le monde se met à creuser. Ils voient un peu d'eau, tout coup, une source d'eau comme ça. Et une joie extra, tous les juifs, c'est la joie, ils s'embrassent, ils boivent, ils sont heureux. Ils ont pas fait, ils n'étaient pas suffisamment discrets. Un des nazis a vu cela. Qu'est-ce que c'est? Il ne comprend pas ce qui se passe. Bon. Il appelle ses collègues. Ils sont dans un champ, ils ne sont pas dans le camp. Il y a des fermiers, des gens. Ils ne voulaient pas faire trop de bruit. Bon, on laisse ça pour le lendemain matin. Le lendemain matin, les officiers viennent. Ils voient comme ça de l'eau partout. Ils ont regardé comme ça, ils ont fait comme ça, ils n'ont pas compris et ils sont partis. Un des miracles extraordinaires. Même au fin fond de la Shoah, comment Hachem n'a pas oublié son peuple? Alors, évidemment, vous me direz, il y a 6 millions de Juifs qui sont partis, oui. On ne connaît pas les raisons, je ne peux en parler, c'est un sujet qui est très très difficile, surtout pas pour un petit jour comme ça. En quoi ça nous concerne à nous? Chacun dans sa vie, il a des souffrances. Des fois des petites souffrances, des fois des grandes souffrances. Il ne faut jamais oublier qu'Hachem est avec nous. Tchouat Hachem Kerefain. La rédemption de Dieu peut arriver en une seconde. Dieu est là. S'il a fait un miracle pareil, ça prouve qu'il est là. Il a voulu qu'il ait malheur, il a voulu qu'il ait malheur. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Une personne souffre, Hachem a voulu qu'il ait le malheur, oui. On ne sait pas pourquoi. Mais dire qu'Hachem n'est pas là, impossible. Il est là et il aide. Il aide. Très souvent, quand on est dans une situation de souffrance, la plus grande consolation, la plus grande aide peut venir du fait qu'on lève la tête vers Hachem, et qu'on le supplie de nous aider, et ça aide beaucoup. D'abord, ces prières sont extrêmement, extrêmement bien reçues. Et aussi au niveau mystique, le côté négatif, il se tait. Si la personne ne se révolte pas, au contraire, elle accepte. Elle fait confiance en Hachem, que tout est pour le bien, c'est le meilleur moyen d'arrêter l'accusation contre cette personne. Si, durant ces choix terribles, Dieu a fait des miracles pareils, alors d'abord on le remercie, et on le supplie, et on l'appelle, on crie vers lui pour qu'il continue à faire des miracles. Il fait des miracles extraordinaires aujourd'hui. Je pense que très bientôt, on verra encore beaucoup, beaucoup de miracles. Et Baruch Hashem, très bientôt, qu'on ait Mashiach avec des miracles fantastiques qui fassent que toute l'humanité reconnaisse sa grandeur. Amen. Kenei Ratzon.